Messieurs, dames, ce samedi matin, c'est une nouvelle émission qui nous attend, c'est Histoire épique, ou comment certains faits sont devenus dans la culture commune les éléments déclencheurs officiels d'événements historiques. Pour éclairer ce titre quelque peu sibyllin, messieurs, citons l'exemple le plus célèbre de l'histoire, à savoir l'assassinat, qu'on l'on connaît tous bien sûr, de François Ferdinand, archiduc d'Autriche, à Sarajevo le 28 juin 1914, qui aurait été l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Alors, mythe ou réalité, nos spécialistes sauront vous éclairer, confirmer ou infirmer vos croyances. Et pour cette première émission, commençons par le commencement de l'histoire, à savoir évidemment la préhistoire, avec notre invité, docteur en préhistoire et ethnologie, madame Estelle Vourche-Yvain. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour cette première. On est accompagné aujourd'hui de Lionel Lévesque. Salut Lionel.
Bonjour à tous.
Lionel Lévesque, qui n'est pas docteur en histoire, mais par contre qui est passionné par tous les sujets
passionné,
historiques.
Passionné, amateur éclairé, comme vous voulez, mais
amateur éclairé, tout à fait. Et Jean-Félix, qui nous rejoint sur cette émission également, professeur émérite du collège Alain Gerbeau en histoire géo.
Tout à fait. Bonjour.
Salut Jean-Félix, avec une période préférée chez toi ?
Une période de prédilection, celle de mes études, c'est plutôt sur le Moyen-Âge dans l'islam.
Très bien. Ah, dans l'islam, d'accord. Donc tu nous feras une émission là-dessus, on espère évidemment.
Avec plaisir.
T'écouter. Estelle, on va se permettre de te tutoyer.
Très bien.
Et on va rappeler ta thèse, un petit peu le sujet de ta thèse, c'était comprendre l'évolution des territoires au Mésolithique, période qui correspond à la préhistoire récente à partir de l'analyse de pierres taillées. Je ne me trompe pas ?
C'est très bien, c'est tout à fait ça.
C'est très bien. Alors, tu colles parfaitement avec notre thème, qui est la préhistoire, bien sûr. Nous, la préhistoire, ce que l'on en pense, c'est un Cro-Magnon, une Lucy in the Sky with Diamond. Et après, tout se mélange un petit peu dans nos têtes, entre le feu, la taille de la pierre, quoi d'autre, messieurs ?
Peut-être la roue.
L'agriculture, la roue, et ainsi de suite.
Homo erectus, Homo habilis, etc., etc.
Comment classer un petit peu tous ces personnages ? Tu nous diras d'ailleurs s'il y a un classement historique dans tout cela, et maintenant on va prendre plaisir à t'écouter et à t'interrompre parfois quand cela ne nous semble plus clair, ou en tout cas que tu es en train de déconstruire une de nos croyances que l'on pensait avérée. Estelle, on va te laisser la parole, captive-nous, on adore l'histoire, c'est parti.
Très bien. Bon, alors c'est un petit peu le challenge quand même, 3-4 millions d'années d'histoire humaine en une heure. Donc je garantis pas que j'arriverai jusqu'au bout parce que c'est pas si simple. Alors le découpage un petit peu classique, c'est paléolithique, mésolithique, néolithique. On va revenir dessus évidemment et on va voir que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. Donc vous m'interrompez si je commence à être un petit peu plus obscur, parce que bon, parfois on s'enflamme et puis ça devient plus compliqué.
Évidemment. Le paléolithique, on l'a, les gars, hein, c'est la fameuse pierre, la pierre ancienne.
Ancienne, oui, ça... c'est vrai que les étymologies sont toujours assez intéressantes et
voilà,
parfois éclairantes.
Puisque le lithique, c'est bien
lithos.
La pierre, Estelle.
Lithos.
C'est ça. Et donc paléolithique, justement, donc ça veut dire qu'on va étudier les hommes, les humains, préhumains, à partir du moment où ils font du lithique, c'est-à-dire où ils vont faire de la pierre taillée. Et donc, évidemment, pas question de parler de dinosaures ou de tout ça, hein,
oui.
Parce qu'il n'y avait pas d'humains, donc c'est peut-être un peu facile à dire, mais c'est vrai que ben, souvent on nous demande est-ce que vous travaillez sur les dinosaures et les fossiles ? Non, pas du tout. Donc, paléolithique, on va commencer du coup par le début. Il y a jusque dans les années, début des années 2000, hein, on n'incluait pas les Australopithèques dans le paléolithique. Puisque tout simplement, les Australopithèques ont considéré qu'ils n'avaient pas fait d'outils en pierre. Et puis, ben, première révolution, hein, première technologie, c'est là, on a découvert en 2012, au Kenya, un groupe d'Australopithèques qui ont taillé de la pierre. Donc maintenant, les Australopithèques font partie du paléolithique aussi. Voilà.
Excuse-moi.
Ouais.
Ça voudrait dire donc qu'en fait les Australopithèques jusque-là on les classait en préhumains. S'ils ont fait des outils en pierre taillée, on les ferait basculer dans l'espèce humaine ou c'est plus compliqué que
non,
ça?
Non, on les fait quand même pas basculer dans l'espèce humaine. C'est pas le genre homo.
D'accord.
Les Australopithèques gardent leur nom d'Australopithèque. Je vais un petit peu vous expliquer les petites différences quand même qu'il y a. Jusque-là, normalement, Australopithèque, c'est vrai que souvent dans les cours qu'on peut lire, on le mettait dans le paléolithique, on devait pas normalement, puisque c'était la pierre taillée. Mais ouais, on a trouvé ce groupe-là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est aussi important. Alors d'abord, la première chose, c'est que ces premiers outils, alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on a la notion là de fabriquer un outil. C'est-à-dire que plutôt que prélever un élément naturel du milieu, donc prendre un caillou pour casser une noix par exemple, ils vont fabriquer l'outil. C'est-à-dire qu'ils vont modifier le caillou pour casser la noix, pour faire ce qu'ils ont à faire avec. Donc ça, c'est très préhumain en fait. On a très peu d'animaux, surtout à cette époque-là, qui vont fabriquer l'outil. Il y a une différence entre utiliser un élément naturel comme outil et vraiment fabriquer un outil. Donc là, on ne savait pas du tout, jusque les années 2012, que les Australopithèques avaient franchi ce cap qui est assez fondamental, fabrication d'outils, donc de rentrer dans ce qu'on appelle la technologie, donc la technologie de la pierre taillée. Donc c'est Australopithèque qui inaugure ça, mais de façon un petit peu spécifique, c'est-à-dire que ils vont tailler les cailloux comme ils cassent les coquilles des fruits secs, en fait. Pour expliquer ça un petit peu simplement, c'est que classiquement, quand on donne à n'importe qui deux cailloux pour les tailler, on va faire ce qu'on appelle de la percussion lancée. On va taper sur les cailloux l'un contre l'autre. Là, ils vont faire ce qu'on appelle de la percussion posée, c'est-à-dire qu'ils vont poser le caillou et ils vont taper dessus. En fait, comme s'ils cassaient une noix.
Mmh.
Voilà, ce qui est très différent de ce qu'on va avoir avec le genre homo après, où on va avoir la percussion lancée. Et ça, c'est intéressant.
Mais alors moi je comprends pas là le pré-humain ou le pré-homo, je sais pas comment on dit. Donc on se déclare homo sans évidemment tous les jeux de mots qui vont avec, mais on se déclare homo à partir du moment où on va commencer à utiliser l'outil, ou ça se passe comment alors?
Non, c'est morphologique en fait pour le moment.
Ah, d'accord.
Dans le genre homo, c'est en fait le genre homo, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une classification des espèces vivantes.
D'accord.
Voilà, comme un cours de SVT en fait Donc de sciences et vie et de la terre. C'est là, c'est pas de l'ordre des compétences des archéologues. C'est vraiment là, c'est vraiment regrouper les espèces. Et puis donc le genre Homo va regrouper donc des espèces vivantes, plusieurs espèces humaines.
D'accord.
Et donc les Australopithèques sont trop éloignés en fait de ces espèces pour être intégré dans le genre homo morphologiquement parlant.
Donc là, on est sur une espèce qui est proche de l'homme, mais qui en est quand même différente, mais qui et sait maîtriser la technologie de la pierre taillée.
Ouais, voilà.
Okay. Alors moi, jusqu'à il y a 3-4 ans, je ne savais pas qu'il y avait des races, différentes races humaines qui avaient coexisté en même temps et même qui avaient existé. Donc moi je pensais que ça s'était suivi normalement dans l'histoire, l'évolution de l'espèce humaine, mais toi tu nous dis qu'il y a eu du Homo erectus n'était pas le même que Homo sapiens, qui n'était pas le même que...
Oui, alors les espèces humaines c'est un schéma buissonnant, c'est pas quelque chose de linéaire.
Ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, il y a plusieurs, comme il existe différentes races de chiens, il y a eu différentes races d'hommes qui ont existé, qui ont coexisté.
Voilà. Donc, il y a 100 000 ans, il y avait une grosse... Pour le moment, dans l'état actuel des connaissances, il y avait au moins une dizaine d'espèces humaines qui vivaient en même temps sur Terre. Ouais.
Et est-ce qu'on peut dire que l'Homo sapiens descend de l'Homo erectus, sachant qu'il s'est éteint, l'Homo erectus? Est-ce qu'on descend quand même ou on descend d'un autre?
Alors, on descend d'Homo erectus. Alors ça, j'expliquerai ça un petit peu plus tard.
Ah, pardon.
Mais déjà, je peux faire la petite parenthèse vite fait. C'est pas grave, ça donne les jalons. Homo erectus, c'est le premier à sortir d'Afrique. Et à partir de là, donc, il va s'éparpiller. Il va aller en Europe, il va aller en Asie. Et puis, et donc du coup, vu les densités humaines qu'il y avait à l'époque, qui étaient très 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 faibles, il va évoluer. Et puis, cette évolution va amener à de nouvelles espèces. Donc, les Homo erectus, je simplifie, mais en gros, c'est ça. Mais bon, ouais, je simplifie parce que ce sera un petit peu, c'est encore plus compliqué, mais voilà.
On en a besoin.
Voilà, je simplifie un peu quand même. Les Homo erectus qui sont restés en Afrique, enfin, en tout cas, certains groupes d'Homo erectus qui sont restés en Afrique, c'est eux qui vont donner Sapiens. Voilà.
Et pour rester, Estelle, pour rester dans le sujet de l'émission, à savoir l'élément déclencheur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment de l'histoire, on décide que Homo erectus devient Homo sapiens? Est-ce qu'il y a eu une, la découverte du feu ou de la taille ou, de la, ou du bronze ou je ne sais trop quoi?
C'est encore une évolution morphologique?
Non, ça c'est encore différent. Le passage, il ne se fait pas en un coup de baguette magique d'Homo erectus à Homo sapiens, évidemment. Il y a des phases transitoires et c'est là-dessus que vont se battre les paléo-anthropologues en fait. Hein. Est-ce qu'on classe certains types de crânes qu'on trouve en Homo erectus ou en proto-sapiens? Donc là, c'est des débats de paléo-anthropologues qui ne se résolvent jamais au final, puisque on a tellement peu d'os aussi, tellement peu d'éléments comparatifs, c'est compliqué.
Oui, Félix.
Est-ce que ça veut dire que je pense que quand on a des fouilles, il y a souvent des éléments du squelette qu'on retrouve. Lorsqu'on a un nouveau crâne qu'on n'arrive pas vraiment à classer, est-ce que ça mécaniquement ça veut dire qu'on crée une nouvelle espèce humaine ou est-ce que on essaie quand même de le ranger dans ce qui existe déjà?
C'est que en fait on connaît tellement peu de choses. Là, en fait, on va parler hein, de ces espèces. Et il faut savoir que pour 3 millions d'années d'histoire humaine, le corpus d'os est quand même très très limité, hein. Le corpus d'os exploitable. Donc on se base, et c'est ça qui est passionnant, hein, c'est que chaque personne, chaque chercheur qui va fouiller va pouvoir apporter sa contribution. Voilà.
Mais alors tu parles, je te coupe encore Estelle, tu parles de passionnant, mais j'imagine aussi extrêmement frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse. Vous vous trouvez face à un crâne, bah, vous savez pas forcément de quand il date, de quelle espèce il vient et ainsi de suite. Et après, quand on vous pose ces questions-là, vous êtes obligé de répondre, on ne sait pas trop, j'imagine, on sait pas comment tout ça a évolué.
Moi j'ai envie de dire tant mieux parce que, voilà, quand on fait de la science, il faut savoir aussi rester modeste et faut savoir aussi que voilà sur quel corpus on se base. On peut pas dire tout et n'importe quoi à partir d'un crâne en fait.
Ouais, et les techniques.
Avoir des éléments comparatifs, avoir plusieurs données. Et c'est vrai que parfois il y a quelques articles qu'on peut lire, hein, qui c'est eux en général qui passent plus dans la presse malheureusement. Où on va s'enflammer à dire que c'est une nouvelle espèce, on est sûr, tout ça. Et c'est vrai que souvent, le grand public, malheureusement, n'a pas assez à ces articles où on réfléchit, en fait. Est-ce que c'est vraiment une espèce humaine, une nouvelle espèce humaine? Quelle phase transitoire on est? Mais pour nous, c'est ce qui reste le plus passionnant, en fait, d'avoir des doutes, de se remettre en question, de réfléchir, de prendre des comparaisons.
Évidemment.
Pour faire ce genre de choses, quoi.
Lionel, est-ce qu'on a encore des doutes sur les qualités des techniques de datation?
Alors, les techniques de datation, on innove toujours. Et donc, du coup, c'est de mieux en mieux, forcément. Donc, c'est pour ça que sur un site, par exemple, il va falloir essayer de faire toujours des réserves archéologiques. Parce que faut aussi être modeste à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on sait que les technologies évoluent. Et on sait qu'on fera mieux dans 10 ans. Et on sait qu'on sera encore mieux dans 50 ans. Et il faut garder ça en tête parce que, il y a, par exemple, en Bretagne, il y a plein de sites qui ont été fouillés, qui ont été trop fouillés au 19e siècle. Et du coup, les données, elles sont perdues. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais pour les techniques de l'époque.
Oui.
Donc on va essayer de conserver au maximum des réserves archéologiques sur lesquelles on peut revenir. C'est important de garder cette modestie, de savoir que nos technologies évoluent et notre connaissance est en évolution. Voilà.
Alors, on te coupe beaucoup, Estelle. On est désolé, mais c'est parce qu'on est passionné. Ce que je te propose par rapport au thème de l'émission, c'est nous te donner certains marqueurs du grand public et toi de nous dire par-dessus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça correspond à quelque chose, est-ce que ça fait changer de période. Par exemple,
Je termine juste sur mes petits australopithèques.
Oui, tu as bien raison.
Donc mes petits australopithèques qui sont végétariens, voilà, ça va faire ça. Et ça, on le sait en analysant les dents. Je pourrais vous détailler comment. Et puis il mesure un petit peu plus d'un mètre. Voilà.
Végétarien ou vegan, Estelle? Attention.
Ah.
Hein. Attention.
Et du coup, Estelle, en quoi on a imaginé qu'un australopithèque, il avait besoin de tailler des pierres pour se nourrir en végétarien?
Casser les coques des fruits.
Ah, d'accord, oui. Tout à fait.
Ouais, voilà. Il n'était pas chasseur, hein, mais casser les coques des fruits, c'est indispensable, ce que font les grands singes aujourd'hui. Mais ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils taillent pas. En fait. Ils prennent une pierre, ils l'utilisent comme outil. Et Australopithèque, la différence, c'est qu'il va fabriquer l'outil. Et là, la différence, elle est fondamentale quand on rentre là dans la technologie de la pierre taillée. Donc, c'est notre première technologie, en fait. Voilà. Qui nous reste. Hein. Ils ont peut-être fait de la technologie du bois, mais pour le moment, c'est pas identifié.
Encore une petite question. On parle beaucoup et on va encore parler, j'imagine, de taillage de pierre. On parle jamais de taillage de bois. Est-ce qu'on a des traces de taillage de bois?
Ah bah, c'est tout le problème. C'est qu'il y en avait probablement. Mais alors, avant de trouver des traces de 4 millions d'années de bois, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On arrive à trouver du bois ancien dans les tourbières. Anciennement, on commence à avoir des produits de ce type, ça va être du mésolithique, donc ça va être du moins de 10 000 ans. On tape sur du 3 millions d'années, on n'a pas, en fait. Mais après, rien n'empêche, c'est vrai, de s'imaginer qu'un jour, on pourra retrouver des traces, des petits restes, des choses comme ça. Quand on voit les progrès qui sont faits, ça va très vite, en fait. Donc, c'est d'où l'importance de la réserve archéo, justement, pour garder ces possibilités-là. Quoi.
Là, ce que tu veux dire, c'est que c'est un grand problème de préservation, c'est ça?
Oui. C'est des problèmes taphonomiques qu'on appelle ça, en fait. C'est-à-dire que travail de la peau, travail du bois... Ben, on va avoir du mal à la voir, en fait, sur les périodes les plus anciennes.
Les sinologues ont le même problème, puisque apparemment, il y avait des choses extraordinaires faites en bambou, mais le bambou ne se conserve pas. Et donc, on peut pas attester de tout ça. Mais certains écrits disent que c'était extraordinaire, toutes ces conceptions. Estelle, dans tout ça, le feu, ça, on connaît tous, évidemment. On a tous une idée, enfin tous, je ne sais pas, mais en tout cas entre moins 500 et moins 600 1000, est-ce que ça c'est un marqueur de l'histoire? Est-ce que ça c'est un passage d'un homme à l'autre? Est-ce que c'est un passage d'une région à l'autre? Comment ça se passe cette fameuse découverte là?
Alors le feu, c'est d'abord on découvre pas le feu, on découvre la maîtrise.
La maîtrise.
Si le feu il existe bien, c'est la planète qui l'a inventé. Alors le feu c'est pas Abilis. Habilis, le pauvre, il a perdu son titre, puisqu'on l'avait appelé Homo habilis, pensant que c'était lui le premier à fabriquer des outils. Pas de chance, c'est l'Australopithèque. Mais on continue à l'appeler Habilis. Le feu, c'est Erectus. Alors, Erectus, c'est un sacré personnage. Parce que, juste pour vous situer le contexte, en fait, c'est un certain sacré personnage, parce que, en fait, c'est pour certains paléo-anthropologues, on peut parler déjà de civilisation, d'être plus ou moins civilisé. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des squelettes, par exemple, d'Homo erectus très archaïques, qui ont été trouvés en Géorgie, hein, qui datent de 1,8 million d'années. Et il y a un petit côté émouvant, et c'est important aussi. Hein. Les paléo-anthropologues, ils ont étudié la mâchoire d'un homme âgé qui n'avait plus de dents. Et en fait, ce personnage, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus de dents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne ne pouvait pas s'alimenter sans aide. Et il a survécu pendant plusieurs années. Donc, il a survécu comment? Il a survécu parce qu'il est aidé par son groupe. Et cette notion d'aider les plus faibles, c'est pour plusieurs paléanthropologues, hein, c'est ce qu'on peut appeler la civilisation, en fait. Voilà. Donc, c'est, c'est une espèce quand même qui va amener beaucoup, beaucoup de changements. Et donc, c'est eux qui ont inventé la maîtrise du feu. Le feu, hein, ça sert à plein de choses, évidemment. Cuisson des aliments, se chauffer. Je vais revenir quand même sur cette histoire de cuisson des aliments. C'est peut-être ça qui est le plus fondamental. Alors, il est certain, hein, qu'au départ, cuire l'aliment, c'était juste parce que c'est meilleur la viande cuite. Ça a dû être une question de goût, en fait, hein, tout simplement. Mm-hmm. Mais qui va avoir des conséquences quand même importantes, hein. Puisqu'à partir du moment où on cuit les aliments, déjà, on va mieux survivre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement, on va moins ingurgiter tout un tas de saloperies. Et du coup, les humains vont...
augmenter leur espérance de vie.
Voilà, augmenter leur espérance de vie. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que avec la cuisson des aliments, la viande est plus tendre. Mm. Donc, notre mâchoire va évoluer. Et notre mâchoire va évoluer, libérant en fait certaines parties pour que notre cerveau se développe. Mmh. Donc là, on a ce qu'on appelle de la coévolution, une évolution technologique qui amène une évolution biologique.
Excellent.
Donc l'invention du feu, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc c'est pas encore un truc déclencheur d'un coup d'un seul. Mais ça va prendre peut-être des milliers d'années. Puis quand est-ce qu'on a commencé à le produire, le feu, ça aussi on n'en sait rien. Mais on est quand même sur une espèce humaine qui va amener ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Et oui, et à la base, bien se dire que voilà, c'est pas j'ai décidé de cuire mes aliments pour détruire les microbes et les bactéries. Je savais pas du tout que ça existait, ce genre de choses. Mais ça a eu ses conséquences-là. Donc voilà.
Ouais. Félix.
Oui, juste une petite question. Là, tu parles d'évolution. On est bien d'accord que ça se déroule sur des milliers et des milliers d'années, ça.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Ouais. La mesure du temps, là, c'est quelque chose qui est très très difficile à appréhender pour des gens de l'époque contemporaine où on vit plutôt dans l'instant. Mmh. Là, on est sur du millier d'années, on est sur des choses comme ça.
Forcément, mais c'est quand même étonnant ce que tu dis sur le fait qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui est protéines, glucides, tout ça. Ça m'étonne à l'époque. Lionel.
Oui, tu as beaucoup insisté sur le feu dans l'alimentation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une importance en termes de chauffage, voire même de protection par rapport aux animaux?
Alors protection pour les animaux, c'est plus que probable. Puisque l'humain a eu certainement d'abord à la base lui aussi peur du feu, hein, puisqu'on est des animaux. Donc l'humain, il a eu peur du feu. Et puis il a réussi à se débarrasser de cette peur du feu pour réussir à survivre. Il faut aussi savoir que l'espèce humaine, elle a été plusieurs fois en voie d'extinction. Hein. Mmh. Donc sans le feu, ça aurait été probablement compliqué pour nous de continuer en fait.
Mmh. Ça se voit hein, à Koh-Lanta, dès qu'ils n'ont pas le feu, au bout d'une semaine, ils sont quasiment éliminés.
Donc
ça peut aller très vite.
Je fasse parce que moi je sais faire du feu, donc je pense m'inscrire.
Mais alors là, ils ont fait quand même une sacrée période historique sans le feu, quoi. Ça paraît dingue maintenant ça.
Et ils ont fait une sacrée période historique sans le feu, et ils ont fait une sacrée période historique en manquant évidemment plusieurs fois de s'éteindre.
Ah ouais.
Voilà, on a été plusieurs fois en voie d'extinction. Donc Homo erectus, c'est ce bonhomme là qui est capable de ça. Alors par rapport à se réchauffer, comme tu me demandais tout à l'heure, là par contre, ce qu'on constate, c'est que au départ, quand il va dans des régions plus fraîches, c'est-à-dire froides, hein, plutôt plus fraîches, il n'y aura pas le feu tout de suite en fait. Alors ça a été très très certainement une aide, mais la corrélation entre les deux n'est pas systématique tout de suite. Ou alors on l'a pas encore bien identifié. Mmh. Alors en Europe, les premières traces de feu, hein, c'est 450 000 ans, c'est pas très loin de chez nous, surtout chez moi d'ailleurs, parce que je suis finistérienne.
Mmh. Intéressant ça.
Et fière de l'être. C'est 450 000 ans à Ménestrigan, donc à Plouinec.
La question est comment vous avez gardé le feu dans le Finistère avec toute la flotte qui tombe. Mais bon, ça c'est annexe. Hein. Félix.
Le pas plus pense que chez vous.
Oui, moi j'avais une question sur l'impact que qu'a pu avoir le feu là justement, si on parle de rupture. Est-ce que en améliorant l'alimentation des hommes, est-ce que ça a eu un impact sur leur taille? Tout à l'heure tu as parlé d'Australopithèque qui fait 1 mètre. Est-ce qu'on voit une différence de taille entre les premiers Homo erectus et ceux qui ont dompté le feu?
Alors on a tout ça. Ouais, on a une vraie différence dans la morphologie des gens en fait, qui sont surprenants puisque ils ont une mâchoire moins puissante, mais ils sont plus gros, il y a un cerveau plus gros. Mmh. Alors donc pendant longtemps on s'est interrogé comment ça se fait en fait que ils ont une mâchoire moins puissante et pourtant ils ont besoin de plus manger puisqu'ils sont plus grands et ils ont un cerveau plus gros. Et donc forcément là le feu intervient. Hein. Sans le feu, on n'aurait pas eu tout ça en fait. Et puis, donc oui, on a une corrélation et oui, c'est pas linéaire. Comme je disais tout à l'heure, on passe pas d'un coup de baguette magique à Homo habilis, Homo erectus, et puis après Homo erectus, il va lui aussi évoluer hein, sur les quelques centaines de milliers d'années qu'il concerne. Hein, s'il a vécu Homo erectus à peu près, j'aime pas les dates.
Mais oui.
Je vais quand même en donner une. Pour Homo erectus, on a des traces de lui depuis 2 millions d'années. C'est-à-dire qu'il commence il y a 2 millions d'années. Hein. Ça peut être un petit peu plus ancien. Mais on a des traces de lui depuis 2 millions d'années et son extinction, c'est 100 000 ans.
Ah ouais, il a bien tenu, lui.
Il a bien tenu. Hein.
Ah ouais. Il a bien tenu.
Il a bien tenu. Et donc 100 000 ans, sur une île d'Indonésie, on a retrouvé les dernières traces d'Erectus. Donc sur cet énorme laps de temps, forcément, il évolue, hein. Il évolue, il s'adapte à son environnement.
Certainement, Lionel.
Je voulais rebondir sur la question de Jean-Fay et sur ton observation aussi, Benoît, sur cette émission. C'est parce qu'on visualise souvent, on représente souvent l'évolution de l'homme avec quelqu'un qui est courbe là et qui se relève petit
oui,
à petit.
Oui.
On parle de Homo erectus. Est-ce que c'est une réalité ce côté l'homme
oui.
qui se relève?
Est-ce que c'est une réalité? Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est marche, bipédie, s'améliore, hein, avec Australopithèque, on est gentil, mais il va pas courir un cross, hein.
Ou un urban trail, pour les Lavallois.
Et, progressivement, là aussi, la stature évolue, et cette stature qui va pénaliser les femmes, hein.
Ah oui.
Parce que, voilà. Puisque le bassin, progressivement, avec la position debout, va se rétrécir et rendre les accouchements plus périlleux.
Voilà. D'accord.
Ah oui.
Ouais. Alors, au départ, si vous voyez un grand singe, par exemple, il n'y a pas les problèmes d'accouchement que peut avoir une femme. Et donc, ça, c'est lié au bassin qui s'est rétréci avec la station debout.
D'accord.
Intéressant.
Ça, on ne savait pas non plus, messieurs. On fait une première petite coupure musicale sur cette chose que l'on apprend, là.
Ah oui.
Et on est aussi là pour ça. On apprend avec Estelle. C'est extra, la préhistoire. Il y en a pour des millions d'années, donc des millions d'heures d'émission, évidemment. Estelle, on te retrouve juste après la petite coupure. À tout de suite.
Estelle.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eat marshmallow pies. Everyone smiles.
houses, you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
Allez, messieurs, dames, en ce samedi matin, on replonge en pleine préhistoire. On prend énormément de plaisir à écouter Estelle nous expliquer un petit peu cette période hein, que l'on connaît mal finalement et pourtant qui s'allonge sur une 98% de l'humanité. Et cette fameuse préhistoire, on en était, Estelle, à Homo erectus qui a donc maîtrisé le feu, ce qui lui a permis ou pas d'ailleurs de sortir d'Afrique. Est-ce que ça aussi ça a été l'élément déclencheur de sa sortie d'Afrique ou non, il serait sorti de toute façon?
Il serait sorti de toute façon.
Pourquoi? Parce que pour une histoire de...
C'est étonnant, la densité humaine à l'époque est ridicule. Et pourquoi sortir d'Afrique? Probablement qu'il a suivi des troupeaux. On verra avec Sapiens, c'est encore plus surprenant ce qui s'est passé quand il a commencé à coloniser la planète. Juste pour la petite parenthèse, hein, Sapiens, il y a 15 000 ans, il est allé en Arctique.
Ouais.
Avec les densités humaines qu'il y avait. C'est quand même assez étonnant pour une espèce humaine qui vient d'Afrique de se retrouver en Arctique avec des densités humaines qui ne dépassaient pas un habitant par kilomètre carré.
Oui, avec les moyens de l'époque en plus.
C'est un truc de fou en fait.
Ouais, mais là on parle de 15 000 ans, tu vois, moi ça m'impressionne pas du tout par rapport aux 2, 3, 4 millions d'années et ainsi de suite. Ça me paraît plutôt logique en fait que il y a 15 000 ans on soit allé voir ailleurs quoi. Alors de là à parler de l'Australie, parce que l'Australie il a fallu faire un chemin de dingue par mer, j'arrive pas à me l'expliquer. Tu nous le feras peut-être pour nous, mais tout ce qui est relié par terre, je comprends un petit peu plus quoi.
Ouais, c'est pas si évident parce que on n'est pas fait du tout pour se protéger du froid en tant qu'espèce humaine.
Ouais.
On vient d'Afrique. On n'est pas équipé contre le froid. On n'a rien en fait. On n'a pas assez de poils, on n'a pas assez de graisse.
Et ça, tiens, dans la culture commune, dans ce qu'on croit tous qu'on vient du singe, donc on était extrêmement poilu à l'époque et puis on les a perdus petit à petit. Non, c'est pas bon.
C'est très intéressant aussi. À la base, on était poilus, c'est sûr, comme les singes. Et puis, on a perdu nos poils progressivement, pour une raison, je sais pas. voilà. Et ce qui fait qu'on a eu la peau noire, tous, puisqu'on vient tous d'Afrique. Et cette peau noire permettait de se protéger contre les rayons UV.
Mmh.
Voilà. Et puis, la peau s'est ensuite éclaircie pour les groupes humains qui sont allés dans les régions où il y a moins de soleil. Donc, elle s'est pas éclaircie d'un coup de baguette magique. Hein. On prend n'importe quelle fratrie. Dans une fratrie, il y a toujours des frères et sœurs qui sont plus foncés, d'autres qui sont plus clairs. Voilà, dans n'importe quelle famille, c'est comme ça. Ben, qui sont ceux qui vont le mieux se reproduire, le mieux grandir dans les régions où il n'y a pas assez de soleil, ben ce sont qui ont la peau plus claire, qui sont ceux qui vont le mieux se reproduire et grandir dans les régions où il y a beaucoup de soleil, ben c'est ceux qui ont la peau foncée.
Tout simplement.
C'est comme ça qu'il y a eu ces gradations, et c'est pas non plus sur 50, je sais pas, sur une génération, hein, c'est sur des centaines d'années. Malheureusement, moi, si je vais en Afrique, je vais pas avoir la peau qui va se foncer toute seule.
Certainement.
C'est assez mystérieux, parce que tout à l'heure, tu nous disais le peu de ressources que l'on a, et là, tu nous parles de poils, de peau, à partir de...
Ah, ça, c'est grâce à... Ouais, alors ça, c'est grâce au reste ADN qu'on peut retrouver.
Ah, l'ADN.
Et s'il y a des grosses avancées en ce moment... C'est, faudrait pas que ça devienne un nouveau petit paradigme, quand même non plus, parce que bon, bah voilà, on focalise quand même beaucoup dessus. Et, c'est pour, ça, on le sait parce que c'est l'évolution logique, mais aussi on a fait des tests sur des squelettes de 10 000 ans, en Bretagne, en Finlande, voilà. Et on a plein de petites choses, je vous raconterai après, parce que j'ai un peu de suspense, c'est super intéressant. Voilà. C'est vraiment super intéressant de voir en fait les groupes humains comment ils réagissent.
Et alors
la vitamine D, mais il faut aussi pouvoir protéger du soleil. Donc c'est ça. Alors je rassure tout de suite tout le monde aujourd'hui. Il y a de la vitamine D en ampoule et puis il y a de la crème solaire, donc tout va bien. On peut aller partout.
Ah, formidable, formidable.
Voilà.
Bon, on avance dans notre.
Maintenant, on va peut-être passer à Sapiens.
Attends, parce que moi, dans mon imaginaire aussi, il y a des histoires d'air glaciaire.
Ah ouais.
Qui ont. Est-ce que ça, c'est des déclencheurs? Est-ce que non, ça n'a rien à voir? L'homme aurait de toute façon fait ce qu'il a fait sans que le climat ne change.
Alors, le climat a certainement joué. Mais le climat, il varie au paléolithique. Hein. C'est pas du tout linéaire. C'est pas du tout linéaire. On a des oscillations, pas aussi fort qu'avec le réchauffement climatique actuel, hein, qui est dû là à l'humain. Mais on a quand même des oscillations qui prennent. On est au paléolithique, on prend son temps, on va pas s'énerver. Hein.
Donc, oui.
Qui se font sur des milliers d'années, mais on a eu des périodes où il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de périodes où il faisait beaucoup. Donc évidemment, comme nos hommes là, ils sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont totalement inféodés à la faune et la flore. Donc si les troupeaux partent, eux ils partent aussi.
Voilà.
C'est aussi simple que ça. Donc ils suivent les troupeaux. Et évidemment, ce qu'on constate, c'est qu'ils vont pas direct aller vers le nord. Hein. Ils vont plutôt aller vers des zones climatiques qui ressemblent à ce qu'on a en Afrique. C'est pas qu'ils vont aller en Asie. Et ils vont se retrouver beaucoup plus en Asie que vers l'Europe du Nord, tout ça.
D'accord, Félix.
Oui, moi c'était pour terminer sur Homo erectus.
Toi tu reviens en arrière là.
Ouais, mais c'est pour la transition presque.
Ah d'accord.
On sait que Homo sapiens a peuplé toute la planète. T'as dit que Homo erectus était sorti d'Afrique, mais vraisemblablement et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas allé partout. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui l'a empêché d'atteindre l'Amérique, l'Australie ou des endroits
Alors,
comme ça
L'Australie, c'est la navigation.
Ouais. Bah tu vois là, j'ai pas besoin d'avoir une thèse en archéologie pour le comprendre, hein. Jean-Félix, c'est pas compliqué, le mec il y a 5000 km à faire à la rame, c'est pas évident quoi.
Ça bien ça fait.
ça m'épate. Ouais, vas-y Estelle.
Et c'est pas 5000, c'est 100.
Il y a 100 bornes à faire de la Papouasie là jusqu'en
d'île en île, oui.
L'Asie du Sud-Est là, il y a 100, c'est énorme hein, 100.
Oui, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal.
Parce que moi, je ne fais pas la nage, hein. Mais il y a 100 km. Et puis, vers le nord, trop froid. Beaucoup trop froid. Hmm. En fait, par où ils passent, ils vont passer par le détroit de Bering.
Ouais.
Mais ils ne sont pas équipés pour ça.
D'accord, ok.
Donc, en fait, il a fallu vraiment, pour atteindre ces régions les plus froides, là, il a fallu une autre invention qui est peut-être plus importante que le feu pour se protéger du froid, c'est le vêtement cousu.
Et ça va être sapiens.
C'est une sorte de peau de bête qu'on se balance sur la peau. Autant dire que je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un pull, une espèce de châle là où dans lequel on c'est pas cousu, il y a des courants d'air dans tous les sens en fait.
Oui.
Donc ça marche pas. En fait, ce qu'il faut c'est des vêtements cousus. Et c'est à partir du moment où on a commencé à coudre les vêtements que là, on a pu aller vers les zones les plus froides.
Ah, bah ça, je l'ai pas, moi, dans mes marqueurs historiques. Là.
Et ça, c'est Sapiens.
Et ça, bah, on a déjà avec Néandertal, ouais. On a déjà avec Néandertal du vêtement cousu. Mmh. Il se balance voilà les images d'Épinal avec l'homme préhistorique qui n'a rien et puis qui a une peau de bête dessus là.
Oui.
Ben non en fait c'est pas possible, c'est juste pas possible.
En train de combattre un diplodocus en général.
Ça doit bien être dans les clichés des villes. Voilà.
Donc le Cro-Magnon qu'on représente souvent c'est pareil, c'est en fait il est déjà sur du vêtement cousu. C'est une fausse image de la peau de bête.
Il a des vêtements cousus dans les régions froides, ouais, bien sûr. Okay. Enfin, non, il a des chaussures, il est sur des vêtements cousus, mais sinon il aurait perdu ses pieds depuis longtemps. Voilà, si on est en période glaciaire, il fait à peu près le même climat que les Alpes en hiver. Ben non, on marche pas dans la neige pinue, c'est juste pas possible, on est assez
ouais. On n'est pas fait pour ça, tout à fait. On avance, Estelle, avec ses sur Erectus. Alors malgré le Félix qui veut à tout prix faire des retours en arrière, et c'est intéressant. Attention, Sapiens apparaît quand ? Alors tu n'aimes pas les dates, mais alors Sapiens apparaît comment ? Plus que quand ? Qu'est-ce qui nous détermine l'apparition de Sapiens ?
Vous le saurez dans le deuxième épisode d'Histoire épique. Samedi 8 mars. À 10h du matin, sur l'autre radio.